Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes se font élever jusqu'à la stratosphère pour se jeter vertigineusement jusqu'au plancher des vaches? Eh bien, en quelque sorte, cette prédication au travers de l'histoire de Gédéon et de Madian et des Madianites tentera de trouver un sens à ce comportement. Mais d'abord, un peu de géographie, d'histoire et de mythologie biblique. Madian, c'est un personnage de la Bible. Il est un des fils d'Abraham quand même et de sa concubine Keturah. Ses descendants, les Madianites, s'installent à l'est du Jourdain. Moïse y est accueilli par le prêtre de cette tribu qui s'appelle Jéthro. Après avoir fui l'Égypte, il y épouse là-bas Séphora, une fille de Jéthro. Peu après, Dieu se révèle dans l'épisode du buisson ardent. Mais la vengeance exercée par Moïse contre les Madianites, dont les femmes avaient séduit les enfants d'Israël et fait adopter le culte des idoles, a quand même envenimé leur rapport, pour le moins. Alors, comment dire? Dans l'Ancien Testament, les Madianites sont des bergers ou des commerçants, ils jouent un rôle important dans le commerce, et ils sont considérés d'une part d'une manière très positive en Israël, dans Exode, avec l'histoire de Jéthro, etc., ou au contraire comme des ennemis. Ils arrivaient comme une multitude de criquets, dit le texte. C'était bien des ennemis, et ces gens-là sont une véritable punition. Ils venaient dans le pays pour le ravager, dit le récit. L'ennemi, dans la Bible, est un leitmotiv qui ressemble à une phobie. Vous l'avez entendu deux ou trois fois déjà dans cette liturgie, dans le psaume, dans certains cantiques. Quand vous rebobinerez la séance, vous verrez qu'ils étaient là, les adversaires, les ennemis. Mais c'est assez facile de trouver ça dans la Bible, car je crois que effectivement, ça leur représente une phobie. Quand Jésus dira plus tard, aimez vos ennemis, il viendra prêcher au milieu de cette phobie, de cette institution phobique. C'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là, entre autres, qu'il est devenu lui-même un ennemi. Jésus voulait-il rompre cette malédiction qui fait croire à l'humain que pour exister, il a le besoin essentiel d'avoir un ennemi? Ne pourrait-il pas cet humain se contenter d'avoir des adversaires? Non, l'ennemi désigné, imaginaire, l'ennemi qui grouille, qui prolifère, qui ravage, qui envahit, rien de tel pour souder une opinion, rien de tel pour avoir la sensation d'exister. J'ai un ennemi, donc j'existe. Or, en réalité, l'ennemi est une notion totalement imaginaire. Et en tant que tel, il n'existe que dans notre esprit. Dans la réalité concrète, il n'y a que des adversaires. Du moins, il n'y a pas que des adversaires, mais ce qui fait figure d'ennemi est en réalité un adversaire. Alors évidemment, un adversaire, c'est beaucoup moins intéressant. Il n'y a pas avec lui toute cette intimité que l'on trouve avec l'ennemi. Je te hais parce que je te connais, parce que je crois que tu me connais, parce que tu m'intéresses, même si tu veux me détruire. Entre ennemis, nous sommes un couple. Nous avons une chorégraphie à respecter. Nous bougeons ensemble, ou du moins nous le croyons, nous l'imaginons. Faire la guerre à un ennemi est voué à l'échec, car il n'existe pas. En revanche, l'adversaire, lui, est concret. Certes, le combat sera débarrassé de son emphase, les discours à son encontre seront moins vibrants, mais qu'est-ce qu'on veut, en fait? Est-ce qu'on veut nourrir sans cesse des créatures imaginaires, ou est-ce qu'on veut gagner des combats que l'on estime justes? Pour ce faire, alors, il faut se débarrasser définitivement du fantasme de l'ennemi. La diversité est déjà assez intense dans la vie, on ne va pas en plus livrer des combats de légende. Cette croyance en l'ennemi est dramatique, car aussitôt un ennemi détruit, un autre ennemi prend la place, à cause justement de ce besoin d'ennemi, de cette addiction à l'ennemi. C'est sur cette ligne de démarcation que j'interprète la discussion entre Gédéon et le messager du Seigneur. Elle arrive après cette description apocalyptique des Madianites, comparée à des nuisibles, comparée à des insectes. Et il y a une aura autour d'eux, des Madianites. Nous nous sommes tant aimés. Nous sommes de la même famille. Séphora, la fille de Jéthro, une épouse de Moïse, est le symbole de l'alliance de nos clans. Et puis, des histoires de séduction, d'idoles et de vengeance nous ont transformés en ennemis intimes. Mais la discussion qui suit va faire retomber toute cette emphase. C'est une discussion très pédagogique pour le lecteur. Et la question, c'est comment transformer un ennemi en adversaire ? Et comment le vaincre plutôt que de rejouer éternellement la danse de la lutte qui est devenue le symbole de notre alliance ? La première chose qu'on remarque ici, le premier moyen de sortir de l'imaginaire de l'ennemi, c'est de douter. Je pense que vous l'avez entendu dans la lecture de Gédéon. Gédéon, il doute, et plusieurs fois. Et douter de tout. Le meilleur moyen, le premier moyen ici, c'est de crever une par une les bulles paralysantes de notre imaginaire autour de notre lutte avec l'ennemi. Le messager annonce que le Seigneur est avec Gédéon. Mais Gédéon, la première chose qu'il a fait, c'est de douter. Il y a de quoi douter, douter de toutes ces belles phrases liturgiques. Et je vous rappelle que ce texte était lu dans des moments où le peuple avait perdu beaucoup de choses. Avait perdu tout, quoi. Il y a de quoi douter de toutes ces belles phrases liturgiques autour du Dieu Sauveur quand l'ennemi ressemble à un nuage de criquets qui accumule des ravages. Ils sont où tous ces actes étonnants, dit ce texte, face à cet ennemi-là ? Alors le messager, et on ne le remarque pas assez dans ce texte, en fait, s'efface bizarrement dans le texte. C'est plus le messager qui parle, c'est le Seigneur directement. Discrètement, il est là, à la place du messager. On dirait que le Seigneur est plus habitué au doute de son paroissien, on va dire. Et il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Un premier pas vers la destruction de l'imaginaire de l'ennemi vient d'être fait. Va avec cette force que tu as, ce n'est pas cet ennemi est un être diabolique et nous allons tous mourir, ça c'est sûr. Ou nous allons vaincre notre ennemi parce que nous sommes les élus de Dieu. Pas du tout. Vous rappelez le discours de George W. Bush sur son porte-avions avec l'axe du mal ? Bien sûr, qui ne s'en souvient pas ? En s'envolant si haut dans cet imaginaire de bataille galactique, il ruinait sans le savoir toute chance de gagner quoi que ce soit. En désignant aussi emphatiquement cet ennemi proliférant, il ne pouvait que manquer sa cible. Ce qu'il fit d'ailleurs. Et par contre, il a marqué l'histoire par son incompétence. Va avec cette force que tu as. C'est vraiment la logique, non pas de l'ennemi, mais de l'adversaire. S'il s'agit de se battre, il s'agit de connaître de quelle force on dispose avant de se précipiter ou et de mourir, quoi, et ou de rester paralysé. C'est en connaissant cette force qu'on va l'utiliser le mieux possible, le plus concrètement possible. L'idée n'est pas « je vais gagner parce que je suis le bien » ou « je vais perdre parce que je ne suis rien », mais « je vais augmenter mes chances de gagner en sachant ce que j'ai, ce que je n'ai pas ». Ainsi, par exemple, je ne vais pas me présenter devant mon adversaire avec tous mes points faibles. C'est ce que fit l'homme du porte-avions avec son emphase. Mais j'y vais dans ce combat lucide avec moi-même et sur moi-même, de connaissance de moi-même. Et c'est là que je vais me battre, avec tout ça. Cela dit par le Seigneur lui-même dans le texte, Gédéon continue tout de même à douter. Nous, parfois, on cite souvent « bah, avec cette force que tu as » et on oublie tout le contexte du texte parce que si vous dites ça à quelqu'un, très bien, ce quelqu'un devrait en fait continuer à douter, à vous demander, mais de quoi tu parles, en fait. Ce récit savoureux nous fait entendre, juste après, va avec cette force que tu as, dit par le Seigneur, il dit encore une fois, pardon mon Seigneur, mais avec quoi je vais sauver Israël, ma fratrie la plus faible de Manassé, et moi je suis le plus petit. Cela ne ressemble pas du tout au discours du porte-avions. Le pire discours de l'histoire contemporaine, troisième allusion et dernière, mais dont les conséquences nous assaillent encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment remarqué. Comment je vais faire ? Telle est la vraie question que l'on doit se poser avant le combat. « Je serai avec toi, répète le Seigneur, mais Gédéon doute encore. Gédéon ne se contente pas, d'idéologie, de fantasmes ou de paroles. Il a besoin d'un signe concret pour aller partir au combat avec toute sa petitesse. » Alors, il dit au Seigneur, et c'est un passage que j'aime particulièrement, de ne pas bouger. Et le Seigneur obtempère. Il dit cette phrase que j'ai envie de garder dans ma tête quand je m'adresse à Dieu. « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Ça nous fait penser au fils prodigue, quoi. Et voilà que s'opère donc, par l'intermédiaire du messager, le brûlement de cette offrande. Et là, Gédéon y croit. Il a fallu du temps pour qu'enfin il aille avec cette force qu'il a, et cette force, il a découverte après avoir dégagé toute l'angoisse autour de cette déferlante de terreur. Car la principale caractéristique de l'ennemi, quand il est magnifié à ce point dans notre imaginaire, c'est qu'il est angoissant. Et pourquoi ? C'est normal qu'il le soit, car il est une figure de notre imaginaire. Et donc, en tant que ça, il est partout, évidemment, parce que notre imaginaire à nous, nous le trimballons en permanence. Il est partout. Il est dans l'ombre. Il est dans la lumière, il est dans le deuxième sens d'un mot. Mais maintenant, Gédéon est délivré de l'angoisse narcissique, paralysante. Il sait que la force qu'il a est une force concrète et pas une bouffée narcissique. Il se rappellera toujours qu'il est petit. Et contrairement aux commentaires qui disent qu'il n'est pas courageux, c'est pas du tout le problème. Il va se battre, non pas contre un ennemi plus lent et irrésistible, mais contre un adversaire concret. Les récits de la Bible hébraïque, en particulier, et aussi certains récits du Nouveau Testament, en particulier les évangiles, ont pour destinataire le cœur des hommes. Et pour les interpréter, il faut déjà ne pas vraiment tenir compte de la gangue de légendes et de miracles et d'opérations fantastiques qu'il y a dans ces récits, sinon... Si l'interprète pointe directement là-dessus, il va tomber sur une impasse. Car tous ces points-là ne servent qu'à articuler le message qui est ici très simple. Tu te débats dans la vie avec des idées préconçues, y compris sur Dieu, sur toi-même, sur autrui, mais ton imaginaire, en réalité, te cache la réalité. Mais c'est dans cette réalité que tu découvriras Dieu. Car depuis toujours, en fait, Dieu n'habite pas dans tes idées, mais il habite dans le réel. Alors fais comme Gédéon, discute avec Dieu, débat, doute, reprends-le, dis-lui de ne pas bouger, de rester, apporte-lui ton offrande et vois, ressens même le signe concret, au bout d'un certain temps. Et là, il se trouve que c'est un brûlement d'offrande fantastique, mais le signe concret, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est le ressenti de cette présence qui est importante. Et c'est tel que tu es, avec toi, comme un être concret, avec la force qui t'est donnée, avec la faiblesse ou la petitesse qui t'a été révélée, que tu vas pouvoir affronter l'adversité. Car il y en a. Cette adversité, c'est pas l'antre du mal, c'est juste un adversaire. Il n'a rien pour ou contre toi. Et revenir vers Dieu, c'est revenir au réel, c'est revenir à soi, et tu auras plus de chances de gagner si tu mènes un combat. Ce n'est pas un combat imaginaire. C'est comme quand tu te débats dans tes rêves avec les pupilles qui tournent sous tes paupières et tes bras qui s'agitent. Souvent donc, je me suis demandé pourquoi des gens montaient de plus en plus haut, y compris dans la stratosphère, et se jetaient dans le vide. Eh bien, c'est probablement pour sentir vertigineusement le fait de revenir sur Terre, de revenir au réel. Et je leur dirais éventuellement qu'il y aurait des moyens moins coûteux, moins dangereux, en particulier par la spiritualité concrète biblique de l'Ancien Testament. Gédéon, le combattant, crée un autel, A-U-T-E-L, et il ne le nomme pas n'importe comment. Il le nomme, vous l'avez bien entendu, Adonai Shalom, c'est la fin du texte, c'est la fin de la pédagogie ouverte par ce texte, c'est la fin de la prédication, le Seigneur de la tranquillité. Gédéon est désormais tranquille, comme s'il était unifié, parce qu'il se voit, parce qu'il voit son adversaire, et il voit le monde tels qu'ils sont. Amen.